VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel en RDC. C'est aujourd'hui que le dialogue qui se tient sous les bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo reprend à Kinshasa. Les évêques qui étaient rentrés dans leur diocèse respectif sont de retour pour amorcer la dernière ligne droite des travaux. Un accord devra être signé à la fin de la semaine. Les détails avec Gino Rimad de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le dialogue Med by Senko pourra reprendre ses travaux ce jeudi. Il s'agira d'une plénière pour adopter les documents de compromis selon une source proche des prélats catholiques. La même source renseigne que la petite équipe mise en place le week-end dernier a eu à travailler depuis lundi, même si le travail n'était pas costaud. D'après elle, les divergences qui restent sont minimes. Elle parle notamment de la nature et valeur juridique du document, de l'assignation de la primature à une composante, et sur ce point, on parle de plus en plus du rassemblement et de la refonte de la CENI. Concernant la CENI, nous a-t-elle révélé qu'il n'y a pas vraiment de problème car certains délégués non signataires de l'accord Kodjo n'exigent pas une refonte totale de la CENI. Pour ce qui est de l'adoption de l'accord, déjà ce jeudi, une réunion des évêques est prévue avant la plénière pour adopter une nouvelle stratégie afin de pousser non seulement à l'adoption de l'accord, mais aussi à mener des plaidoyers et lobbying au plus haut niveau, c'est-à-dire auprès de ceux qui donnent des instructions à leurs délégués aux négociations directes afin de s'engager pour l'adoption et la signature de l'accord qui pourra intervenir officiellement et solennellement le vendredi.
Et 15 personnes ont été condamnées à 3 ans de prison pour rébellion hier à Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC, après des heurts lors de manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. 34 autres jugés en même temps ont été acquittés. Ces condamnations sont politiques parce qu'elles visent à satisfaire la hiérarchie. Nous allons en appel puisque sur le plan du droit, il n'y a eu aucune preuve matérielle de culpabilité, a déclaré à l'AFP Désiré Kasakula, l'un des avocats. Cas de la défense. Toujours en RDC, au moins 50 personnes ont été tuées à Boma, dans le sud-est du pays, dans des inondations. Durant la nuit de lundi à mardi, des pluies torrentielles ont fait sortir de son lit la rivière Kalamu, dont une rive se trouve en RDC et une autre en Angola. La crue a duré environ 2 heures avant que les eaux ne se retirent.
VOA Afrique, en direct de Washington.
La police nigériane a annoncé avoir déjoué un attentat à la bombe contre un des principaux ponts de la capitale économique Lagos, préparé par un groupe séparatiste biafrais dont le leader a été arrêté, Michel Joseph.
L'objectif de l'attentat était le pont autoroute Mainland Bridge, reliant sur 13 km le quartier d'affaires d'Island au reste de la mégopole nigériane, a indiqué mercredi soir le porte-parole de la police, Don Awuna, dans un communiqué. Le principal suspect est un Igbo natif de la région de Eseodo, dans l'état d'Ondo. C'est un expert en explosifs, spécialiste de la fabrication d'engins explosifs artisanaux de grande taille à de fins terroristes, a précisé le porte-parole de la police. Selon lui, le leader du groupe séparatiste Igbo a fourni des informations qui ont permis de saisir 2 cartons d'explosifs et 125 détonateurs dans le coffre d'une voiture prête à prendre la route vers le pont. Cet attentat qui a été déjoué aurait porté un coup colossal à l'état de Lagos et au Nigeria, a assuré le porte-parole selon lequel la police est à la recherche d'autres membres du groupe. Le Biafra, région déshéritée du sud-est du Nigeria, a été de 1967 à 1970 le théâtre d'une sanglante guerre civile qui a fait plus d'un million de morts. Et les groupes séparatistes y sont encore nombreux.
On reste au Nigeria pour notre dossier. Les autorités sont plus que jamais déterminées à en finir avec les islamistes de Boko Haram. La nouvelle de la reconquête de la forêt de Sambisa par l'armée nationale est célébrée comme une étape majeure dans le rétablissement de la sécurité dans le nord-est du pays. Pour une analyse, Timothée Donangmaï a joint au Nigeria le professeur Akambi Ilupeju de l'Université de Lagos.
La situation actuelle est qu'ils ont réussi à les chasser de l'air. Bastion principale et l'armée nationale compte maintenant transformer cette bastion en terrain d'entraînement pour l'armée nationale. Et bien, cela n'empêche pas qu'on ait des attentats ici par là, parce que les insurgés, en fuyant, veulent toujours faire savoir qu'ils existent. Alors on ne peut pas empêcher d'entendre des bombes ici, par là.
C'est clair qu'ils sont nombreux à se disperser au sein de la population civile. Comment parvenir à les contrecarrer?
Vous voyez, la situation ethnique du pays fait que, selon la tradition, il y a certaines localités que tout de suite, quand ils ont des étrangers parmi eux, signalent. Ils signalent ça non seulement aux autorités, mais entre eux, ils se connaissent. Mais il y a aussi culturellement des endroits au Nigeria où les gens se taisent beaucoup par peur d'être attaqués ou par être victimisés. C'est ça qui rend difficile la tâche à l'armée. Mais maintenant, les gens ont compris, ils font des rapports sous couvert, unanimes, pour que les gens ne sachent pas qui a fait le rapport. Alors, ça donne un peu de gain à la section sécuritaire. C'est pour cela qu'à Lagos, tout récemment, ils ont réussi à appréhender certains djihadistes qui se cachaient parmi la population.
Quelles sont les autres initiatives que le gouvernement doit mener, selon vous, pour définitivement régler ce problème Boko Haram?
Vous savez, c'est une première dans le pays. Alors maintenant, ils sont en train d'apprendre chaque jour qu'il ne fallait pas se retirer tout de suite parce que lorsqu'ils ont, ils gagnent du terrain, et les insurgés attaquent ailleurs et ils se déplacent et les autres reviennent. Et maintenant, ils ont fait de sorte que par chaque région, il y a des camps militaires qui sont vraiment actifs et non pas dormants comme on le faisait parce qu'il n'y a pas de guerre, les gens sont là, il n'y a pas d'ammunition, il n'y a pas de personnel. Maintenant, on laisse ici et là quelques régiments de l'armée et des forces de sécurité unifiées, c'est-à-dire l'armée de l'air, l'armée de terre, les policiers, les gendarmes, tout ça. Alors, et surtout, parmi les locaux, on fait aussi des recrutements et les gens restent sur place.
Professeur Akambi Ilupejo de l'Université de Lagos, le crash de l'avion militaire russe en mer Noire dimanche dernier avec 92 personnes à son bord est dû à un fonctionnement technique anormale de l'appareil, a indiqué aujourd'hui le ministre des Transports, Maxime Sokolov. Selon lui, les premières conclusions sur les raisons de la catastrophe devraient être rendues publiques en janvier. L'exploitation de tous les modèles Tupolev 154 a été suspendue dans l'attente de ces conclusions. La Turquie et la Russie prévoient la mise en œuvre d'un cessez-le-feu en Syrie avant le début de la nouvelle année, a déclaré le ministre des Affaires étrangères turc aujourd'hui. Le cessez-le-feu pourrait être mis en œuvre à tout moment, a annoncé Mevlut Cavusoglu, interrogé sur la chaîne de télévision A Haber à Ankara. Nous prévoyons d'obtenir ceci avant le début de la nouvelle année, a-t-il ajouté.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Washington prévoit d'annoncer aujourd'hui des mesures de rétorsion contre la Russie, accusée d'avoir piraté les institutions démocrates et diffusé ses informations dans le but de favoriser l'élection de Donald Trump et d'autres candidats républicains. Ont annoncé aujourd'hui deux responsables américains. Ces responsables n'ont pas précisé la teneur des mesures approuvées par Barack Obama. Plusieurs pistes ont été évoquées lors de discussions. Sanctions économiques ciblées, mise en examen, diffusion d'informations susceptibles de confondre des responsables russes et des oligarques ou encore des restrictions visant les diplomates russes. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a lui annoncé s'être entretenu avec Barack Obama mercredi et a salué une excellente conversation quelques instants après s'être plaint sur Twitter d'une transition difficile avec l'administration sortante. Il m'a appelé. Nous avons eu une très bonne discussion à propos de toutes choses. C'était un appel très bon et j'ai pensé que nous avions abordé de nombreux sujets, a dit Donald Trump à des journalistes depuis sa propriété de Mar-a-Lago en Floride. Au moins 39 personnes ont été blessées dans deux attentats à la bombe mercredi soir aux Philippines, dont on ignore s'ils sont liés, ont annoncé les autorités. Les deux bombes ont d'abord blessé 33 personnes qui assistent à un match de boxe dans la ville de Ilongos, sur l'île de Leyte, dans le centre de l'archipel. Une heure plus tard, à des centaines de kilomètres au sud, une autre bombe a explosé sur une autoroute de l'île de Mindanao, blessant 6 personnes. Et puis, le Congrès colombien a adopté mercredi une loi d'amnistie protégeant des milliers de combattants rebelles des FARC contre des poursuites judiciaires pour des délits commis pendant le conflit civil qui les a opposés au gouvernement pendant 5 décennies. L'amnistie englobe les membres de l'armée colombienne impliqués dans la guerre civile vieille de 52 ans. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous et merci pour votre fidélité. Jean-Roger Billon, à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.